Chapitre 1er. C'est un jour de l'été 1790. La chaleur coiffe la terre bourdonnante comme un couvercle de ruche. L'odeur des foins, celle des fleurs, des feuillages lourds et des moissons gorgés de soleil montent en bouffées de la campagne et sautent au visage des hommes. Nous sommes dans un pays calme où la vie doit germer sans drame, dans un effort patient. Beau pays de lenteur, carrelé de prés et de labours, rayé de vignes, mollement soulevé de replis où s'abritent des villages aux toits de tuiles. L'un d'eux est d'Ardilly, hameau de 1300 âmes, à 8 kilomètres de Lyon. Marie Belluse, qui est la femme du cultivateur Mathieu Vianney, le rejoint au champ avec ses enfants. Catherine, âgée de 10 ans, et François, 6 ans, marche, baguette en main, chassant devant eux les quelques vaches et les brebis des Vianney. Puis, sur un âne, chemine Jean-Marie, qui a pris ses 4 ans au mois de mai, et Marguerite, surnommée Goton, de 18 mois plus jeune. Derrière eux, la terre monte en pente douce jusqu'au petit clocher de Dardilly, pointé vers le ciel dans la paresse de l'été. Jean-Marie est déjà le bout en train de la bande. C'est un gamin aux yeux bleus pétillants, aux cheveux bruns, au visage d'une minceur pleine de vie, au teint mat. Il se montre sensible, imaginatif, nerveux. Sa mère s'emploie fermement à discipliner son impétuosité naturelle, sa pétulance. Mathieu Vianney, le père, est un homme fort et tranquille, à l'image de sa maison qui se dresse à l'entrée du village. Têtu, conscient de ses droits et de son autorité, il a des mœurs bibliques, il se montre généreux envers les pauvres et tient à ce que l'on dise chaque soir la prière en commun. Peut-être a-t-il les idées un peu courtes, un idéal un peu sommaire, un bon sens un peu épais. Marie Belluse, sa femme, issue comme lui-même d'une famille paysanne, est une personne de haute qualité spirituelle, d'une piété éminente, intuitive, sensible. Elle possède les dons naturels et si rares d'une éducatrice, et ce trait nous le montre entre 10 autres. « Tel voisin que la piété n'étouffe pas, dit un jour à Mathieu Vianney, en parlant du petit Jean-Marie. Je crois que votre Brunet me prend pour le diable. Il se tut de faire des signes de croix en ma présence. » Instruite de l'événement, Marie aussitôt apostrophe son gamin parce qu'il cherche à se faire remarquer. À quoi le pauvre Brunet répond assez mortifié. « Je ne savais pas que notre voisin me regardait, mais avant et après la prière, ne faut-il pas faire le signe de la croix ?» En tout cas, le conseil de simplicité apporté. Car Jean-Marie Vianney, devenu curé d'Ars, s'en souviendra toujours. L'anecdote suffit à prouver que ce petit garçon de 4 ans est fort pieux. Il n'est pas exceptionnel, pourtant, comme le furent certains enfants dont nous parlent les hagiographes. Rien ne permet d'imaginer ce qu'il deviendra, et rien n'autorise à croire que sa famille l'ait imaginé. On a voulu sertir la vérité de 1001 faits légendaires dont il convient de se méfier. Que dire, par exemple, de la scène si souvent contée, où l'on nous présente la sage-femme s'écriant immédiatement après la naissance de Jean-Marie « Cet enfant sera un grand saint ou un grand scélérat ?» Nous pensons qu'il s'agit là de l'invention a posteriori d'un narrateur aimable et qu'une fois de plus, on a prophétisé le passé. Non, Jean-Marie ne semble pas exceptionnel. Mais cette piété qu'il possède déjà, il l'avoue surtout à la Vierge. Il aime à réciter le « Je vous salue Marie », les mains dans les mains de sa mère. Volontiers, il bénit l'heure dès qu'une nouvelle heure sonne. Il se signe et dit un ave, selon l'ancienne coutume. Sa mère lui a donné une statuette en bois représentant la Vierge Marie. 70 ans plus tard, juste avant sa mort, le curé d'Ars dira « Cette statue, oh, que je l'aimais, je ne pouvais m'en séparer ni le jour ni la nuit, et je n'aurais pas dormi tranquille si je ne l'avais eue à côté de moi dans mon lit. » Il ajoutera cette réflexion d'une poésie un peu mystérieuse. La Sainte Vierge, c'est ma plus vieille affection. Je l'ai aimée avant de la connaître. Marie Vianney, nous le répétons, ne peut imaginer ce que deviendra son fils et pourtant il lui arrive de dire « Mon Jean, si tes sœurs et tes frères offensaient le bon Dieu, j'en serais peiné. Je le serais encore beaucoup plus si c'était toi. » Elle le cite volontiers comme modèle à ses autres enfants. « Voyez Jean-Marie, il est plus obéissant que vous. Il fait aussitôt ce qu'on lui demande. » L'obéissance totale chez un enfant impétueux et volontaire est une vertu qui a déjà son petit côté héroïque. Au fur et à mesure qu'il avancera en âge, il la cultivera comme un bon jardinier, la cisellera comme un orfèvre. Mais il trouvera toujours un obstacle dans sa nature impulsive et volontiers bouillonnante, avec cette vivacité de flamme qui l'habite et qui le mènerait droit à la colère s'il n'y tenait la main, à la violence peut-être. Un jour, Jean-Marie, qui possède un chapelet fort joli auquel il tient beaucoup, le montre imprudemment à Gothon, sa jeune sœur. Elle trouve l'objet à son goût, le réclame. Tempête et crie. La mère intervient et Jean-Marie cède. Sanglotant, il donne le chapelet. Un autre jour, il n'a que 4 ans. Le gamin disparaît mystérieusement de la maison. Marie Vianney s'en aperçoit, le cherche, l'appelle. En vain. Affolée, elle poursuit ses investigations par toute la ferme, criant et se désespérant. Car elle vient de penser brusquement à un certain trou d'eau, noir et profond, où l'enfant s'est peut-être noyé. Elle découvre enfin Jean-Marie dans l'étable. Il est en train d'y prier, les mains sur la fameuse statuette de bois. Marie, en bonne chrétienne, est peut-être édifiée, mais elle ne l'entend pas de cette oreille. « Pourquoi t'es-tu sauvé? Pourquoi m'as-tu donné tant d'inquiétude? Et pourquoi donc te caches-tu pour faire tes prières? Tu sais bien que nous les faisons ensemble. » Jean-Marie Vianney doit beaucoup, devra beaucoup à cette femme qui est sa mère. Sur le sentiment filial, il fera plus tard des réflexions qui ne laissent aucun doute. Le goût de la prière et de l'autel. Après Dieu, je le dois à ma mère. La vertu passe facilement du cœur des mères dans le cœur des enfants. Et l'abbé Monin, témoin de haute valeur et qui sera l'un des confidents des derniers mois de sa vie, déclarera « Il nous souvient de lui avoir entendu dire, en d'autres rencontres, qu'un enfant ne doit pas pouvoir regarder sa mère sans pleurer. » Cependant, la France vient d'être secouée de fond en comble par une série d'événements formidables qui ont ébranlé dans leur fondation non seulement une monarchie vieille de 8 siècles, mais une tradition religieuse plus que millénaire. Après le serment du jeu de paume en 1789, le roi s'est incliné devant l'Assemblée. M. Necker a été renvoyé comme un laquais. La situation à Paris n'a fait qu'empirer, se dégrader sous la haine tenace des agitateurs et provocateurs de tout poil. Et le 14 juillet de la même année, une populace déchaînée qui n'a rien de commun avec le vrai peuple s'est emparée de la Bastille, où l'on a délivré 7 prisonniers, 4 faussaires, 1 sadique et 2 fous. Le 26 août, l'Assemblée a déclaré les droits de l'homme, et les 5 et 6 octobre, une multitude insurgée s'est portée de Paris à Versailles pour ramener le roi. L'Assemblée a suivi la famille royale à Paris, et très vite, elle est tombée aux mains des clubs. Les conséquences de ces profonds désordres ne se sont pas faites attendre. Le 2 novembre 1789 a été voté le décret mettant les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation. Puis le 13 février 1790, l'Assemblée a supprimé d'un trait, de plume, les vœux monastiques et les ordres religieux. Dès lors, les événements se sont précipités. Et de tout cela, de ces rumeurs énormes, de cette vaste houle grandissante qui déferle à Paris, les provinces se sont émues à leur tour. La vente des domaines du clergé, la dissolution des ordres monastiques qui provoquent une stupeur qui bientôt se change en colère. Un peu partout, des protestations vigoureuses, des empoignades et déjà des morts. Et le ressac de ces multitudes finit par atteindre le calme pays du Lyonnais. Il se passe là-haut d'étranges choses, disent les bonnes gens qui sont lents à s'émouvoir. Là-haut, à Paris. Tel est en bref le tableau de ces temps troublés, aux calmes heures de l'été 1790, où nous voyons cheminer à Dardilly, sur leur âne, le petit Jean-Marie Vianney et sa sœur Marguerite, dite Gothon. Mais un autre événement va survenir, qui achèvera de séparer la France en deux. Foulant aux pieds le désir et la volonté des provinces, l'Assemblée vote le 12 juillet la constitution civile du clergé. Ce décret dénonce bel et bien un concordat qui lie la France à Rome depuis François Ier. Il dispose que l'Église française est Église nationale et, s'il le faut, schismatique. Évêques et curés seront désignés par les électeurs de département et de district comme de simples magistrats. L'institution canonique sera conférée aux évêques sans intervention du Saint-Siège. En somme, nous dit un historien, séparation comparable à celle de l'Église anglaise sous Henri VIII. Mais ce n'est rien encore. Au mépris des libertés qu'elle prône si haut et si fort et qui vont être piétinées comme elles ne l'ont jamais été à aucune autre époque, l'Assemblée, sous l'influence des clubs, vote le 27 novembre un nouveau décret obligeant tous les prêtres à prononcer le serment civique, faute de quoi ils perdront leur office. On accule ainsi le clergé de France à trahir sa conscience ou à se démettre. Le pouvoir hostile à la religion ne trouve d'ailleurs que 7 évêques et 58 prêtres qui acceptent de prêter serment. Mais on passe outre et près de 40 faux évêques choisis parmi le rare clergé, jureurs, sont nommés au début de l'année 1791. Alors le pape Pie VI, indigné, sort d'une longue patience et condamne formellement, avec la constitution civile, la déclaration des droits elle-même et les principes sur lesquels elle se fonde. C'est un anathème à la Révolution. Ainsi va commencer la guerre religieuse. Révoltés à juste titre par cette odieuse intrusion de l'autorité civile dans le domaine des âmes, les catholiques entendent déjà les cris dont on menace leurs prêtres et leur liberté spirituelle. À la lanterne, ceux qui refusent le serment, ils relèvent le défi, méprisant les jureurs, vont secourir au péril de leur vie, protéger et cacher les membres du clergé réfractaire, celui qui a su rester fidèle à sa foi. En ce commencement de l'an 1791, Jean-Marie Vianney n'a pas encore 5 ans. Hélas, le curé de Dardilly, messire Jacques Rey, s'est soumis au pouvoir. Il prêtera d'ailleurs tous les serments exigés par les gouvernements successifs jusqu'en 1797 et il ne quittera Dardilly qu'en 1803. Cependant, l'église du village demeure ouverte. Les gens de Dardilly, en toute bonne foi, assistent aux offices du jureur et les Vianney y vont aussi, jusqu'au jour où leurs parents d'Écully les préviennent charitablement. Le petit Jean-Marie, sans bien comprendre encore, glane ça et là des bribes de conversation et il se met à fuir le prêtre assermenté. L'église elle-même, d'ailleurs, sera bientôt fermée. À Paris, les attentats contre la liberté se précipitent et se multiplient. Quand on se mêle de diriger une révolution, a écrit Mirabeau, la difficulté n'est pas de la faire aller, c'est de la retenir. Mais personne ne semble pouvoir retenir les forces en marche. Et l'église, le clergé, les libertés spirituelles sont en butte aux pires attaques, aux pires menaces. Et puis ce sont les massacres de septembre 1792. Et cette fois, le sang gicle si fort que la plupart des provinces en reçoivent l'éclaboussure. Pendant 5 jours, on tue pêle-mêle des prêtres, des gens du peuple et des aristocrates, des hommes, des femmes et des enfants. La révolution patauge dans une boue sanglante que tout l'héroïsme de Valmy, le même mois, ne parviendra jamais à laver. La mort du roi Louis XVI, puis la proscription des Girondins au profit des montagnards fanatiques, achèvent de soulever les provinces contre la tyrannie du pouvoir central. Les 3/4 de la France vont prendre feu, et Lyon insurgé, dressé contre l'Assemblée barbouillée de sang, compte au nombre des villes rebelles à la République. Bientôt, le conventionnel Chalier, proconsul et bourreau du lieu, est exécuté. Précy, commandant des Lyonnais révoltés, dirige la résistance aux troupes envoyées par Paris. Guerre civile et guerre religieuse, menées par Dubois-Cranté et Couthon, les armées de la République bombardent et affament la 2e ville de la France. Après un véritable siège, Précy doit se rendre. Alors on assiste à l'une des répressions les plus barbares de cette effrayante époque. La Convention décide que le nom de Lyon sera effacé du tableau des villes de la République. Toutes les maisons des riches seront détruites et l'on plantera dans les ruines cette inscription « Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon n'est plus ». L'un de ceux qui se chargeront d'appliquer le décret s'appelle Fouché. Entre-temps, pour donner un aspect légal à toutes ces orgies funèbres, la Convention a voté la loi des suspects, dont nous rappelons le texte en note, car son application se montre particulièrement féroce dans le Lyonnais. Le clergé est fidèle à l'Église et le premier gibier voué à la mort par cette loi impitoyable. Et c'est elle que vont braver les Vianney et les gens de leur temps, pour et de leur trempe, pour sauver leurs prêtres et défendre leur foi. Donc, tout prêtre ayant refusé le serment s'expose légalement à être arrêté et exécuté sans recours possible dans les 24 heures. Quiconque dénonce le proscrit reçoit 100 livres de récompense et quiconque lui donne asile tombe sous le coup de la loi. Tout cela n'empêche pas l'immense majorité du clergé de rester fidèle à l'Église persécutée. Nombreux sont les prêtres en fuite qui parcourent les chemins aux environs de Dardilly. Marguerite Vianney déposera plus tard sous serment que souvent la maison de son père a caché ses prêtres courageux et que même ils y ont célébré la messe. De cette clandestinité, de ces risques, de cette bravoure, on n'exclut pas les enfants. Souvent, les messes secrètes doivent être dites loin de Dardilly. Jean-Marie, il n'a que 7 ans, est de ceux qui marchent dans la nuit et dans la peur de longues heures pour s'y rendre. Une grange ou une chambre à peine éclairée, un prêtre inconnu, des fidèles silencieux comme des ombres, une messe de premiers chrétiens. Jean-Marie n'oubliera jamais de telles scènes, belles et sombres. Et voici l'un des signes étranges de sa destinée. Lui qui ne cessera jamais de prêcher la douceur et l'amour par la parole et par l'exemple, vivra de son enfance à sa mort parmi les événements les plus terribles et les plus sanglants qu'une même existence d'homme puisse connaître. L'église de Dardilly demeure close et des hommes sont venus pour abattre les croix, en sorte que Jean-Marie sur les chemins ne voit plus que le socle des calvaires et se détourne. À Lyon, sous l'œil amusé des patriotes et parfois dans une atmosphère de carnaval, les massacres battent leur plein. Il semble que la mort soit l'enjeu d'un record tragique. Les proconsuls rivalisent entre eux, de grande ville à grande ville, et dans cette course épouvantable avec M. Collot, d'Herbois et Fouché, Lyon se place en tête après Nantes. La boucherie devient colossale. De septembre 1793 à février 1794, les sans-culottes mitraillent et fusillent par colonnes entières en plaine des Brotteaux. 1800 victimes, dit-on. Dans les campagnes de la région, dans les villages comme Dardilly, on baisse la voix pour évoquer ces horreurs. Mais les responsables, eux, en désertent avec des mines de gourmets. Un régal donné aux patriotes, dit Collot. Et tout cela n'empêche pas la petite Louison, c'est-à-dire la guillotine, de fonctionner chaque jour avec appétit. Du sang partout, murmure à Paris le tribun Danton, hagard. « Quoi ? Toujours du sang ?» dira Maximilien de Robespierre lui-même, quand on lui montrera des chiffres. Dans la campagne du Lyonnais, il est d'usage qu'à 7 ans, un enfant devienne berger. Jean-Marie doit mener à l'herbe les quelques vaches et brebis de son père. Bien sûr, il ne sait pas grand-chose des événements ni de leur tragédie, mais les rumeurs des combats entre les troupes de Précy et celles de Dubois-Crancé, il a bien fallu les entendre, et tous les soldats de la Révolution qui ont traversé le village, il a bien fallu les voir. Jean-Marie connaît aussi la peur générale qu'on ne peut lui cacher, ces calvaires sans croix dont le socle de pierre semble attendre en vain les pieds de Jésus, et ces messes furtives dans l'ombre où danse une flamme de bougie. Mais il lui reste, Dieu merci, la vie des champs et des bois, la compagnie paisible des bêtes et son enfance que rien n'empêchera de rêver. Les Vianney ont quelques biens. Dans les différents fonds que possèdent ses parents, Jean-Marie conduit un petit troupeau à Chantemerle, à la Lèche, au Précusin et au Chêneron. C'est vers Chantemerle qu'il se dirige le plus souvent. Un vallon profond, ombragé, bruissant d'oiseaux. Le ruisseau des Planches y passe, bordé de trembles et d'aulnes. Et déjà le petit Vianney ressemble au prêtre qu'il sera un jour, à la fois pratique et inspiré. Il tient du paysan et du poète. Dans ses fibres, il ressent la paix des arbres et le poids du jour. Il aime les prés, les moissons, une bonne odeur de terre et de soleil. Il le dira plus tard. Et il aime ces rumeurs qui se creusent d'un horizon à l'autre et qui sont les sillons du silence. Par-dessus tout, c'est bien le silence qu'il aime. Dans 40 ans, dans 50 ans, jusqu'à la mort, il en reparlera d'une voix qui parfois se brisera de regret, car il est contemplatif d'abord. Il a le sens de l'horizon. Il prie comme il respire avec ce naturel, cette simplicité qui lui font rechercher la solitude. En vérité, Ce qu'il préfère déjà souverainement, c'est parler à Dieu sans témoin ou se taire pour l'écouter. Un grand religieux, don de la veine, disait « Le silence est le signe le plus certain de la présence de Dieu dans une âme. Mais il faut que le petit Jean-Marie Vianney fasse maintenant sa provision de silence, de recueillement et de solitude. Car dans son âge d'homme, tout cela lui sera refusé. Jamais il ne se sépare de la statuette représentant la Vierge que sa mère lui a donnée. Il a découvert un tronc de vieux saule et dans un creux il y place la figurine de bois devant laquelle il s'agenouille. Le saule a remplacé l'église close, mais pour décorer cette chapelle improvisée, il doit abandonner un instant le troupeau à la garde de Marguerite et laisser là le bas de laine que les petits bergers tricotent en surveillant leurs bêtes. « Goton, fais donc mon bas, il faut que j'aille prier. » Dans les environs, Jean-Marie connaît d'autres bergers. Sa personnalité apparaît déjà. Il réunit les gamins de son âge autour de lui, les appelle « mes enfants », les exhorte et les catéchise. Il organise des processions. Les enfants défilent derrière une croix faite simplement de deux bâtons. On récite le chapelet, on chante des cantiques. C'est une revanche imprévue de la religion dans cette France où les cérémonies du culte ont été partout supprimées. Et le meneur, Jean-Marie, confessera plus tard « c'est presque toujours moi qui faisais le curé ». Monseigneur Trochu s'est livré, sur témoignages et documents originaux, à un travail de bénédictin pour évoquer l'enfance de Jean-Marie Vianney. C'est ainsi que nous connaissons à notre gamin une réelle adresse manuelle. Nous savons que vers cette époque, à 7 ans, il modèle une autre statuette de la Vierge, que le père Vianney fera même cuire au four. Nous savons aussi que Jean-Marie est toujours gai, joyeux, très allant, comme disent les veneurs. C'est un champion du palais, et l'un de ses compagnons d'enfance, André Provin, avouera « Il y était fort adroit et nous gagnait facilement. Lorsque nous avions perdu, lui, voyant notre peine, disait « Eh bien, il ne fallait pas jouer. » Et puis, pour nous consoler, nous rendait ce qu'il avait gagné. Et il nous donnait toujours un sou de plus. » Une courte idylle fleurit à cette époque dans l'existence de Jean-Marie et ce fut la seule de sa vie, avec une certaine Marion Vincent, âgée de 7 ans comme lui. L'abbé Monin nous raconte l'affaire. Un jour, Marion et Jean-Marie conduisent au moulin de Saint-Didier un âne chargé de blé. Il fait chaud, et les enfants s'arrêtent à l'ombre d'un chemin creux. Jean-Marie dit alors gravement « Je crois que nous nous accorderions bien, nous deux. » Marion trouve que ce brunet a des yeux bleus très doux. Elle dit « Oui, si nos parents voulaient, nous nous marierions. » « Oh, pour ce qui est de moi, reprend vivement Jean-Marie, n'en parlons pas, n'en parlons jamais. » Les désordres de la Révolution, la démolition aveugle d'un édifice millénaire dont la religion était le ciment, une administration absurde et chaotique, la guerre civile et la guerre étrangère, la faim et la peur, tout cela développe en France une épouvantable misère. Dans les campagnes, on voit errer des mendiants, des proscrits, des sans-travail, et l'on trouve même des enfants parmi ces errants qui n'ont ni feu ni lieu. À Dardilly, entre les Vincent et les Vianney, s'établit un accord. Les premiers reçoivent les femmes indigentes. Aux Vianney s'adresseront les hommes. Des miséreux se donnent ainsi rendez-vous à la nuit tombante, nous dit l'abbé Monin. Et il n'est pas rare que la grange des Vianney en reçoive 20 à la fois. Quand la saison est mauvaise, Mathieu allume au milieu de sa cuisine un feu de fagot. Et dès ce moment apparaît chez le petit Jean-Marie l'amour des pauvres, ce grand souffle insolite qui attise la vie des saints. Car l'enfant se multiplie, va chercher la misère où elle se trouve, la débusque, ramène chez son père tout ce qu'il trouve. Et parmi ce butin, des filles et des garçons de son âge qui meurent de faim. Il les soigne et s'affaire, va jusqu'à distribuer son propre dîner. À sa mère, il réclame des vêtements en bon état pour les couvrir. Il n'a guère besoin d'insister. Marie Vianney donnerait tout ce qu'elle possède et Mathieu lui-même est un homme d'une générosité drue et sans mélange. Les pauvres s'assoient donc à la table des maîtres. Et l'on nous dit que Jean-Marie, dont les talents de racoleur vont grandissant, amène un beau soir 24 convives à lui seul. Quand tout le monde est couché, la grange et le fournil, garnis de bonnes pailles, sont peuplés comme des dortoirs. Jean-Marie, qui n'est pas précisément un enfant gâté, va enfin rejoindre son frère aîné François au fond du lit, qui a été dressé pour eux dans un coin de l'étable. Cependant, l'horrible farce révolutionnaire se poursuit. Les hommes sont déclarés égaux et frères, mais l'on s'égorge un peu partout. Aucun régime en France, à aucune époque, n'a disposé de pouvoirs exercés par le comité du salut public, et jamais les prisons n'ont à ce point débordé de monde, malgré le débit du tribunal révolutionnaire, où les fonctionnaires de la mort travaillent nuit et jour à nourrir la guillotine jusqu'à l'épuisement de leurs forces. C'est la fin des tyrans, crie-t-on, et la tyrannie atteint ses plus hauts sommets, en regard de quoi l'ex-pouvoir royal apparaît comme un régime bourgeois et débonnaire. Les hommes sont libres, mais les lois ont détruit toutes les libertés, et d'abord la plus sacrée d'entre elles, celle des âmes qui veulent adorer Dieu. Il n'est même plus permis aux parents de donner à leurs enfants une éducation de leur choix. Et c'est là qu'apparaît sinistrement la tartufferie empanachée des dirigeants révolutionnaires. Avec un dédain goguenard de la justice et de la vérité, on a proclamé « l'enseignement est libre ». Puis l'on dispose que nul ne peut enseigner s'il n'a pas prêté serment à la Constitution et obtenu le certificat de civisme. Et comme l'on emprisonne et massacre la plupart des hommes qui jusqu'ici ont enseigné librement, le nombre des écoles a décru dans les proportions les plus alarmantes. Parmi tant d'autres villages, Dardilly a perdu la sienne. À Paris même, la vague s'est encore gonflée. On a tué la reine. On l'a assassinée dans les formes légales. Puis la révolution s'est tournée contre sa propre vie, en scorpion. Vergniaud et les Girondins sont morts, et Philippe Égalité, Vernave et Roland, Hébert et Danton, et des charrettes entières de généraux, et ce pauvre fou de Camille Desmoulins. Le rasoir républicain fonctionne à merveille, comme disent ses aimables pourvoyeurs. Les comités clapotent dans un marécage de sang. Entre-temps, une sorte de religion nouvelle a été proclamée par Robespierre. Dans le style ampoulé de l'époque, avec ce verbalisme ridicule qui n'en est pas le signe le moins atroce, il est décrété que le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme. On va rappeler à l'homme par défaite la poésie de la divinité. Tout cela est numéroté, paraffé, affiché, officiel et bien entendu obligatoire. Après une série de cérémonies dont la sottise prétentieuse dépasse l'entendement, on voit le pontife Robespierre en habit bleu-violet marcher en tête d'un étrange cortège. La convention presque entière, accompagnant un char traîné par 8 taureaux aux cornes dorées. Le 28 juillet suivant, Maximilien de Robespierre est exécuté. La nouvelle de la mort du nouveau Cromwell apporte à toute la France un immense soulagement. Et la réaction ne se fait pas attendre. Elle se manifeste d'abord par une série de mesures libérales. C'est bien cela qui importe aux bonnes gens du Lyonnais, lesquels volontiers laisseraient ces fous de Parisiens se déchirer, pourvu qu'on leur rende enfin la paix avec leurs droits. Le 17 novembre, 1794. La Convention abolit le serment de civisme des instituteurs et reconnaît à tout citoyen le droit d'enseigner. Cependant, prendre un décret est une chose, avoir les moyens de l'appliquer en est malheureusement une autre, et les écoliers de Dardilly devront attendre l'hiver 1803-1804 pour voir s'installer chez eux un nouvel instituteur. Petite annotation. Une erreur commune jusqu'ici aux historiens d'Ars veut que l'instituteur Dumas ait ouvert une école à Dardilly dès le début de 1795. Il n'en est rien. Et nous devons cette mise au point aux travaux encore inédits de M. l'abbé Vial, déjà nommé. Quant aux portes de l'église, elles restent également fermées. On continue d'entendre la messe chez les particuliers. Les prêtres restés fidèles à l'église, nous l'avons dit, sont nombreux. Mais ceux qui ont pu demeurer dans leur lyonnais jusqu'à la fin de l'année 1794 sont rares, à peine 30. Ils ont témoigné d'un zèle et d'un courage sans défaillance. Et la province, comme toute la France, est devenue pays de mission. Dans la région d'Écully, à laquelle Dardilly est rattachée, messieurs Royer, Chailloux et Grosbose ont assuré le service des âmes. Petite annotation, leur confrère, M. Charles Ballet, contrairement à ce qui a été affirmé souvent à tort, n'a pas encore mis les pieds à Écully, où il n'arrivera qu'en février 1803 comme desservant concordataire. Le temps passe. Un nouveau gouvernement, le directoire, s'établit. le 27 octobre 1795. Puis l'on commence à parler beaucoup du général Bonaparte qui se couvre de gloire en Italie. Mais le sang est encore frais et les esprits restent loin de l'apaisement. Chacun demeure sur ses gardes. Un beau jour de l'an 1797, M. l'abbé Grosbose passe par Tardilly et demande à Jean-Marie « Quel âge as-tu ? » « 11 ans. Depuis quand ne t'es-tu pas confessé ?»« Mais jamais je ne l'ai fait, » dit le gamin. « Eh bien, faisons cela tout de suite. » Selon Catherine Lassagne, l'un des témoins essentiels de la vie du curé d'Ars, l'abbé Vianney dira plus tard en parlant de sa première confession, « Je me la rappelle toujours. C'était à la maison, au pied de notre horloge. » Mais Jean-Marie doit attendre l'été de l'an 1799 pour faire sa première communion. Or, il est dit que les désordres sanglants et les persécutions n'ont point assez troublé l'âme et l'esprit de cet enfant. Voici maintenant le temps de la seconde terreur. La calmie n'a pas été longue. Nouvelle persécution contre les catholiques. On recommence à poursuivre leurs prêtres. On les déporte en masse, avec une sorte de rage nouvelle et meurtrière. Car ils meurent par centaines, ces prêtres, à la Guyane ou sur les pontons odieux de Rochefort et d'Oléron. Le décadie du calendrier républicain continue de remplacer le dimanche. Et l'on singe encore la véritable religion par de grotesques cérémonies. Il faut se cacher pour prier Dieu. À telle enseigne que Jean-Marie, il a un peu plus de 13 ans, reçoit la communion en secret à Écully, dans une simple chambre au volet clos. « J'étais présente, » racontera Marguerite Vianney. « Mon frère était si content qu'il ne voulait pas sortir de cette chambre. » Plus tard, après 50 ans écoulés, le curé d'Ars montrera aux enfants du catéchisme son chapelet de communion. Jamais il n'oubliera ce jour-là, ni son bonheur, ni les tragiques circonstances, ni l'ombre et le silence de l'intimité divine.